Et donc, nous continuons à cheminer avec Pierre. Enfin, aujourd'hui, on va lui donner un autre compagnon, parce qu'en ce dimanche de la Réformation, on ne pouvait pas ne pas parler de Paul. Donc, le thème de la prédication, c'est Pierre et Paul, et puis vous verrez que petit à petit, on va quitter Pierre pour aller plutôt du côté de Paul. Mais bon, alors, voici quelques passages d'épîtres de Paul. D'abord, dans l'épître aux Romains, au chapitre 1, les versets 16 et 17. « Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, d'un juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi. Ainsi il est écrit, « Celui qui est juste en vertu de la foi vivra. » Ensuite, dans l'épître aux Galates, au chapitre 1, puis au chapitre 2, en fait, c'est Paul qui raconte ses rencontres, ses quelques rencontres avec Pierre, justement. Donc, au chapitre 1 de l'épître aux Galates, à partir du verset 11. « Je vous le certifie, mes frères, la bonne nouvelle que j'ai annoncée pour ma part n'est pas simplement humaine, car moi-même, je ne l'ai pas reçue ni apprise d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de la façon dont je me conduisais autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je m'acharnais contre elle. Dans le judaïsme, je progressais mieux que beaucoup de juifs de mon âge, car je débordais d'une passion jalouse pour les traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Dieu, qui m'a mise à part depuis le ventre de ma mère et qui m'a appelée par sa grâce, de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les non-juifs, aussitôt, sans consulter personne, sans même monter à Jérusalem pour voir ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et j'ai demeuré 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. En écrivant cela, je le dis devant Dieu, je ne mens pas. Je me suis ensuite rendu dans les contrées de Syrie et de Cilicie. Quant aux églises de Judée, celles qui sont dans le Christ, elles ne me connaissaient pas personnellement. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant, comme une bonne nouvelle, la foi contre laquelle il s'acharnait. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. » Puis, au chapitre 2, à partir du verset 7. « Au contraire, lorsqu'ils ont vu que la bonne nouvelle m'avait été confiée pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui avait été à l'œuvre en Pierre pour l'apostolat auprès des circoncis avait été aussi à l'œuvre en moi auprès des non-juifs. Et lorsqu'ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, alors Jacques, Céphas et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes, nous ont donné la main droite à Barnabé et à moi en signe de communion. Nous irions, nous, vers les non-juifs et eux, vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que j'ai fait avec empressement. » Et puis, deux courts versets dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 23 et 24. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Amen. » Alors, en ce jour du dimanche de la Réformation, un peu spécial cette année, puisque c'est aujourd'hui, exactement demain, que vont s'ouvrir une année de célébration pour commémorer donc les 500 ans du placardage des 95 thèses de Luther sur la porte de son église de Wittenberg. Bon, il semble que l'image de Luther avec son petit marteau en train de placarder, c'est-à-dire de clouer ses 95 thèses, est quelque peu mythologique, mais enfin bon, c'est... Oui, parce qu'en fait, les 95 thèses, elles sont longues, alors, et puis elles sont écrites en latin, et on voit mal Luther en train de placarder tout ça, ça serait un peu... Mais bon, en tout cas, c'est bien Luther et ses 95 thèses qui vont donner, en quelque sorte, le début, enfin, qui vont ouvrir le début de ce qu'on appelle la réforme, les réformes, la réformation, suivant les termes. En tout cas... c'est bien un commencement. Il y a bien eu des soubresauts avant, en France, au XIIe siècle, avec Pierre Valdo, en Angleterre, au XIVe siècle, avec John Wycliffe, et puis au XVe siècle, en Tchéquie, avec Jean Hus. Mais Luther, lui, va ouvrir quelque chose, probablement, d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait au départ. Il voulait réformer l'Église. Il en sera excommunié et puis du coup, il va y avoir cette possibilité à toutes ces églises de se développer puisque le protestantisme, aujourd'hui encore, est très divers. C'est une de ses faiblesses, mais c'est aussi, je le pense, une de ses forces. Luther a mis évidemment en avant la liberté et la responsabilité de chaque personne. Il va extirper en quelque sorte l'individu de la masse. Ça va avoir des conséquences pour l'Église, mais à mon avis, bien au-delà, pour notre culture occidentale. J'en suis tout à fait convaincue. La mise à disposition aussi, l'accessibilité relative, parce qu'à l'époque, ce n'était quand même pas une Bible pour chaque personne ou dans chaque famille, ça viendra après. Mais en tout cas, cette accessibilité des Écritures que l'on pouvait désormais lire et au moins écouter dans la langue de chacun, eh bien, est une véritable aussi révolution qui invite chacun et chacune à lire et à entendre les Écritures de manière personnelle, sans intermédiaire. Il y a quelque chose là aussi de tout à fait révolutionnaire, de tout à fait nouveau et qui, à mon avis, là aussi, a des conséquences hors du champ de l'Église. Puisque cela va donner bien des années plus tard eh bien, les sociétés bibliques, et grâce à ces sociétés bibliques et aux écoles bibliques, des enfants vont apprendre à lire dans des milieux où ils n'avaient pas encore accès justement à l'enseignement. Donc, vouloir des individus libres et responsables, eh bien, pour cela, il faut aussi leur donner l'enseignement qu'ils doivent recevoir pour être capables eux-mêmes d'être lecteurs des Écritures et lecteurs de leur vie. Donc, il y a 500 ans, commençait, mais en réalité, vous avez vu que c'est un peu plus compliqué que ça, la réforme. Demain, d'ailleurs, sera célébrée, et je pense que là aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel. En Suède, une grande célébration œcuménique, puisque le pape François sera présent, ainsi que l'évêque Muni Bjunan et le pasteur Martin Jung, qui représentent la communion mondiale et la fédération luthérienne. Mais je pense que cet événement aussi est important. Important parce qu'il est peut-être temps aujourd'hui de construire, d'arrêter de démolir. Et d'ailleurs, cette année que nous entamons s'appelle « Du conflit à la communion ». Alors, vous en entendrez parler de nouveau. Il y aura de nombreux rassemblements, de nombreux événements dans chaque paroisse. Nous vous proposerons d'ailleurs quelque chose ici. C'est en train de se construire, mais plutôt autour de la musique. Et puis, il y aura un colloque au mois de septembre à la Sorbonne, je crois. Et il y aura aussi l'année prochaine, à cette époque-ci, un grand rassemblement protestant à Strasbourg, dans le cadre de protestants en fait, mais évidemment, il sera question de ces 500 ans. Bon, personnellement, je ne suis pas trop portée sur les commémorations, mais je pense que c'est une vraie chance aujourd'hui à saisir pour parler de notre foi, de cette foi singulière, la foi des protestants. Une foi ouverte, une foi libre, une foi qui nous lie et partager cette parole qui nous libère. Et nous avons peu l'occasion, mais j'étais très heureuse ce matin, bon, en préparant le culte, En général, j'ai à peu près fini quand même le dimanche matin. Bon, j'écoute France Info, ça me berce. Ils répètent 15 fois la même chose, donc j'arrive à retenir 3-4 trucs. Mais il y avait une interview du pasteur François de Léveroli qui a duré au moins 5 minutes. Alors je vous assure que ça m'a plutôt enchantée. Pour une fois qu'on entendait 5 minutes sur une radio nationale un protestant, c'était quand même quelque chose de bien. Eh bien, saisissons-nous de cette commémoration pour justement faire connaître qui nous sommes et surtout cette parole qui nous réunit ensemble. Après tout, ce mouvement, eh bien, ça a été le mouvement de Luther. Il ne s'est pas caché, enfin, par moments, un peu quand même. Mais quand même, il a continué à travailler, il a continué à œuvrer, il a suscité des témoins. Et c'était aussi le mouvement de Paul. Il est parti, là, à travers le monde romain pour annoncer cette parole. Eh bien, à travers, aujourd'hui, nos médias, qui sont une formidable chance, nous pouvons aussi partager, faire connaître la singularité de notre foi. Donc, en ce jour de la Réformation, je ne pouvais pas ne pas parler de Paul. Car c'est en lisant l'Épître aux Romains que Luther aurait eu une sorte de révélation. Je mets toujours des guillemets parce que je pense que ça ne s'est pas passé comme ça d'un seul coup. Oh, j'ai une révélation. Mais en tout cas, il était familier des Écritures, il les lisait encore, il était dans cette proximité de la lecture, puisque lui-même enseignait les Écritures saintes, eh bien, il découvre quelque chose qui le bouleverse, c'est l'amour de Dieu. Il découvre cela à travers, eh bien, la lecture approfondie de cette épître de Paul aux Romains. Donc, cette lecture va faire que, eh bien, il va en effet approfondir la lecture de toutes les Écritures également, de Paul, mais aussi des Évangiles. Bon, il n'y a qu'un truc que je reproche à Luther, c'est qu'il n'aime pas l'épître de Jacques, et moi j'aime bien l'épître de Jacques, mais ça, c'est autre chose. Donc, il est important, je pense, d'approfondir un peu Paul, d'approfondir un peu qui est Paul. Ce que dit Paul, ce qui se passe chez Paul. Et là, peut-être qu'en le confrontant à la personne de Pierre, ou Pierre ou Paul avec un point d'interrogation, je ne vous demande pas de choisir finalement. Il faut, à mon avis, conserver les deux, mais essayer de voir ce qui se joue là dans les Écritures à travers ces deux personnes. Deux personnes, eh bien, dont on nous dit une, et on a pas mal prêché là-dessus, sur la primauté de Pierre, mais Paul aussi est présenté tout le temps avec Pierre. D'un côté, vous avez Pierre avec les clés, le pouvoir des clés, vous avez entendu parler de ça. Je pense la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'était il y a 15 jours. Et puis Paul est présenté avec son épée. Alors son épée, c'est certes l'instrument qui, d'après ce que dit la tradition, puisque Pierre et Paul, dans la tradition, sont morts à Rome, et Paul a été décapité avec cette épée, mais c'est aussi toute la force de la parole de Paul. L'épée, elle représente ça. C'est pour ça que Paul aussi est représenté avec cette épée. La force et la puissance de sa parole. La parole de Paul est quelque chose qui va venir et qui, en quelque sorte, va aussi un peu trancher dans la bien-pensance et la bien-séance de l'époque. On voit souvent Paul comme une sorte, aujourd'hui, certains lui parlent de lui, mais c'est complètement anachronique et complètement, à mon avis, je trouve ça déplacé presque, en disant qu'il est réactionnaire, ceci, cela. Mais non, au contraire, Paul est un visionnaire, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Ainsi, Pierre et Paul, qui seraient tous les deux au début de l'Église. Je pense qu'il ne faut pas les opposer. Pierre, comme le disent les Écritures, s'adressait plutôt aux Juifs, plutôt aux circoncis, comme les appelle Paul, et Paul a eu cette mission vers les non-circoncis, vers les païens. Eh bien, il ne faut pas les opposer, mais il faut essayer de voir un peu ce qui se passe. Parce que Pierre, on le connaît comment ? À travers, surtout et avant tout, à travers ce que l'on raconte de lui, dans les Évangiles, dans le livre des Actes des Apôtres. Et puis, il y a deux petites épîtres. Je ne devrais pas dire petites, je devrais dire plutôt brèves, parce qu'elles sont très fortes en réalité théologiquement. D'ailleurs, je pense que je prêche sur Pierre dans 15 jours, je crois. Je ne me souviens pas à chaque fois, mais sur l'épître de Pierre. Elle est forte, cette épître de Pierre. Mais finalement, on connaît plus Pierre à travers les témoignages sur Pierre qu'à travers son témoignage. Et comment connaît-on Paul ? Eh bien, on connaît Paul, certes, par le livre des Actes des Apôtres. Il apparaît vers le chapitre 6 ou 8, enfin, je ne sais plus, enfin, il apparaît assez... pas tout de suite, d'ailleurs, puisqu'au début, il n'y a que les premiers témoins, ceux qui ont rencontré le Christ. Paul apparaît, et on le connaît à travers le livre des Actes des Apôtres. Mais on connaît surtout Paul à travers ses écrits, ses lettres qui lui sont attribuées à lui, et puis les lettres qui lui sont attribuées, mais qui ont été écrites par ses successeurs. C'est comme ça qu'on va connaître Paul. On connaît bien plus Paul à travers son témoignage à lui, lorsqu'il parle en « je », qu'à travers les témoignages des autres, de Luc d'ailleurs, parce qu'il n'y a que Luc qui relate le ministère de Paul. Ainsi, il y a une sorte d'inversion entre Pierre et Paul. Et cette inversion est assez significative aussi du rôle de chacun d'eux. Mais j'y reviendrai tout à l'heure sur cette inversion. Parce qu'il y a d'autres différences entre Pierre et Paul. Et j'y reviendrai aussi. Mais, et c'est intéressant parce que je vous ai lu, là, vous l'avez entendu, les deux récits où Paul rencontre, eh bien, sa rencontre avec Pierre, une première fois, puis une deuxième fois, à Jérusalem. Et à Pierre et Jacques aussi. On voit bien aussi, mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il faut le noter, l'importance de Jacques, le frère du Seigneur, dans les premières communautés chrétiennes, ici du judaïsme, à Jérusalem. Ainsi, Paul nous raconte sa rencontre et le fait, en effet, que surtout la deuxième fois, il faut qu'il monte pour recevoir la permission, parce qu'il y avait un grand débat. La première fois, il a la permission d'aller prêcher aux non-juifs, aux païens. Et puis la deuxième fois, se pose le problème, quelques années plus tard, quelques quinzaines d'années plus tard, le problème de, ces nouveaux chrétiens, ont-ils le droit de ne pas se faire, ces nouveaux chrétiens qui ne sont pas issus du judaïsme, doivent-ils se faire circoncire ? Doivent-ils appliquer les rites juifs ? Paul est persuadé que non. Et je vais y venir dans sa réflexion sur la loi, parce qu'à mon avis, elle est extrêmement, extrêmement intéressante et interpellante. Mais donc, il va à Jérusalem pour bien dialoguer, parce qu'il y a du conflit, on sent bien, même dans le livre des Actes des Apôtres, on sent bien que dès le début de l'Église, il y a du conflit, il y a de la tension. Après tout, l'Église, c'est de la patte humaine. Et Paul, alors quelle patte humaine, là aussi ? Et donc il y a du conflit, donc Paul doit partir à Jérusalem. Alors je ne vous ai pas lu, parce qu'on nous raconte aussi cet événement qui est capital dans la lecture du livre des Actes des Apôtres, parce que c'est un chapitre complet, c'est le chapitre 15, et que lire un chapitre complet, c'est toujours complexe. Vous pouvez vous y reporter chez vous. Ce chapitre 15 donc, nous relate donc l'arrivée de Paul. Alors ce n'est pas exactement les mêmes personnages qui sont... mise en scène à travers la parole de Paul ou la parole des Actes, mais peu importe, c'est bien le problème de la circoncision. Et Paul va repartir avec l'autorisation, et bien finalement, ces nouveaux chrétiens qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas issus du judaïsme, c'est pas la peine qu'ils se fassent circoncire. Et c'est une sorte de révolution. Et dans le livre des Actes aussi, alors on parle souvent de Paul comme étant celui qui ouvre à l'universalisme. D'ailleurs, même, il y a un philosophe marxiste, Alain Badiou, qui a écrit il y a une quinzaine d'années un petit opuscule fort intéressant et interpellant pour nous, chrétiens, qui reconnaît justement la force du message de l'universalisme de Paul et qui montre combien il est important, combien la pensée de Paul est importante encore aujourd'hui, puisque finalement, elle a ouvert à cet universalisme. Vous me direz, Pierre aussi un peu, vous savez, cette rencontre avec Corneille qui a eu lieu avant d'ailleurs, ce chapitre 15. Oui, en effet, Pierre, un peu bousculé par Corneille, par Dieu aussi, accepte qu'un Romain puisse devenir chrétien. Mais Pierre, à ce moment-là, ne se pose pas encore la question. Certainement, dans son esprit, devenir chrétien, c'est devenir en quelque sorte juif, d'une autre secte juive, le christianisme au début. Il n'y a pas encore cette rupture. Parce que Paul, c'est aussi l'homme de la rupture, comme Luther le sera. Peut-être qu'ils ne voulaient pas cette rupture d'ailleurs, mais comme leurs idées étaient claires, précises, la rupture a été automatique. Enfin, je veux dire, il était impossible qu'il n'y ait pas rupture. C'est ce qu'on lit après. Mais sur le moment, ils ne savaient probablement pas qu'il y aurait rupture. Et peu importe, ils avançaient, ils défendaient leurs idées. Ainsi, Pierre et Paul se croisent, mais aujourd'hui, l'Église existe certainement un peu plus grâce à Paul que grâce à Pierre. Il faut bien le dire. Pierre est le premier évêque de Rome, mais Paul va ouvrir toutes ses missions dans tout le monde romain, toutes ses églises, partout. Il va construire ça et il va aussi penser cela. Et ça, c'est évidemment essentiel, la pensée de Paul. Tout à l'heure, je disais que Paul parlait en « je ». Et oui, les lettres de Paul, c'est un vrai récit de vie à la première personne, pleine de pattes humaines. Alors, des fois, il est un peu agaçant. On se dit, oh là là, il se met en scène. Il sort de personnes qui veulent se montrer, d'exhibitionnistes, mais non. En réalité, si vous lisez bien, lorsque Paul se met en scène, c'est pour faire passer un message. D'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises, qu'il n'est vraiment pas grand-chose, qu'il souffre, qu'il est esclave de Jésus-Christ. Eh bien, cela, il le rappelle. Et il rappelle aussi, vous l'avez vu, vous l'avez entendu dans ce que je vous ai lu, son appel, sa conversion sur ce chemin de Damas. Alors, les Actes des Apôtres nous le racontent par trois fois, mais je trouve toujours beaucoup plus touchant d'entendre Paul qui reconnaît à la fois que lui était soumis à la loi juive, qu'il était complètement perverti par cette loi et que du coup il persécutait ces chrétiens. Et d'un seul coup, alors qu'il ne le méritait pas, bien au contraire, Dieu l'a saisi, le Christ l'a appelé et il est devenu lui maintenant, lui-même, apôtre, c'est-à-dire envoyé par Jésus-Christ. Paul se met en scène pour faire passer un message. Et quel message ? D'abord, j'y reviendrai très peu, l'histoire de l'universalisme. L'universalisme, cette ouverture aux nations. J'y reviendrai très peu, mais tout de même, ça a quelque chose qui m'interpelle aussi, cet universalisme. Parce que jusqu'à là, Dieu n'était pas universel. C'était le Dieu d'Israël. Alors certes, on pouvait appartenir au peuple de Dieu de deux manières. D'une part, par généalogie, on était né juif et on transmettait sa religion. Et puis à l'époque de Paul, on pouvait aussi se convertir. Mais se convertir, cela voulait dire accepter toute la loi et tous les rites du judaïsme. C'est-à-dire qu'il fallait donc se faire circoncire. Avec Paul, l'ouverture va gommer tout ça, va faire voler en éclats tout cela. Mais du coup, le Dieu d'Israël devient le Dieu de tous et de toutes, le Dieu de tout un chacun et de tout un chacune. C'est terminé, on ne peut plus enfermer Dieu. C'est presque, finalement, le message de Paul, c'est l'émancipation de Dieu. C'est Dieu et partout et pour tous. Et c'est un message, alors c'est vrai, moi quand je lis l'Ancien Testament, je le trouve. Mais bon, c'est encore plus clair là. C'est-à-dire que, Dieu est partout et pour tous, et surtout, on ne peut plus l'enfermer, on ne peut plus l'accaparer. Il n'appartient pas à une seule personne ou à un seul peuple, il appartient à tout le monde. Et du coup, cela peut changer complètement les images de Dieu. À travers cet universalisme, il y a ça. Et puis, il y a l'universalisme social aussi, chez Paul, dont on oublie. Il ouvre aux nations. Mais il ouvre à tout lorsqu'il dit « il n'y a plus ni esclave ni homme libre ». Il y a une vraie ouverture sociale, un vrai souci là. Alors évidemment, la parole de Paul est profondément politique aussi. J'en suis tout à fait convaincue. Elle va avoir des conséquences hors dehors du champ de l'Église. Donc je parlais de son universalisme. Tout à l'heure je disais « Pierre, il a bien ouvert ». Mais il se trouve quelque chose d'étonnant. dans le livre des Actes des Apôtres. C'est que ça commence avec Pierre, avec un Pierre qui est un grand prédicateur, et ça, on ne peut pas le renier. Et on sait, par la tradition, que Pierre va partir à Rome et va parler à Rome aussi. Mais que se passe-t-il dans le livre des Actes des Apôtres? Ce fameux chapitre 15, ce qu'on appelle, à mon avis, c'est un anachronisme, le Concile de Jérusalem. Eh bien, à partir de là, Pierre disparaît. Pierre s'efface. Plus rien ne nous est dit sur ce que va faire Pierre après. C'est la tradition qui nous rapporte le fait qu'il parte à Rome et qu'il meure supplicié lui aussi à Rome. Mais les Écritures, eh bien, ne nous disent rien sur Pierre. Et la place, par contre, de Paul devient de plus en plus importante. Comme s'il y avait là un passage de témoin de Pierre à Paul. Mais avant d'essayer de comprendre ce passage de témoin, je voudrais revenir sur la loi. Parce que tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y avait jusque-là deux manières d'appartenir au peuple du Seigneur, du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël est devenu un Dieu universel. Mais il y a une troisième voie qui va être ouverte par Paul. Et il est question là, évidemment, ces histoires de circoncision, aujourd'hui, ça ne nous parle plus beaucoup. On se dit quand même, ils se bataillaient pour pas grand-chose. Circoncire, pas circoncire, est-ce si important? Mais derrière ce problème de la circoncision, il y a toute la réflexion de Paul sur la loi. On dit toujours que la loi s'oppose à la foi, que la loi est négative dans la vision de Paul. Bon, je ne le crois pas du tout, d'ailleurs, si vous lisez bien Paul, il est quand même assez légaliste, Paul. Donc, alors, qu'est-ce que la loi pour Paul? En réalité, on peut voir aussi ce qu'il pointe, c'est le mauvais usage de la loi. Lorsque la loi devient une idole, c'est-à-dire qu'on n'adore plus Dieu, on adore la loi, et on se dit qu'on peut se justifier soi-même en appliquant la loi. Et là, Paul arrive et dit... Ça, c'est pas vrai. La loi tout entière, vous ne pourrez jamais l'appliquer. La loi entière, de toute façon, il y a toujours un moment où vous allez vous tromper, où vous allez vous détourner de la loi. Ça, c'est sa première chose. Et puis, il dit aussi, Paul, et il faut tenir les deux en même temps, eh bien, il montre que la loi peut être pervertie. C'est-à-dire que, dans un grand... C'est un peu compliqué, je veux dire. Dans un grand développement, il montre combien c'est la loi qui fait apparaître le péché. Alors, le péché existe certainement avant, mais sans loi, comment dire qu'on a péché? Eh bien, en continuant un peu plus, Paul dit que, justement, cette loi peut tomber du côté du péché, mais elle peut aussi être restaurée. Elle peut être restaurée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus rajouter de la loi ou la loi, il faut que la loi fasse sens pour qu'elle puisse être une loi restaurée. Eh bien, il y a un moment où l'appartenance, il est question d'identité, eh bien, avec la venue de Christ, avec cette parole qui nous libère, on n'a plus besoin de tous ces rites. Et là, je vous renvoie aux évangiles, hein, quand Jésus se promène et laisse ses disciples manger du blé un jour de sabbat. Il le dit bien, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que la loi n'est pas là pour nous écraser, elle est là pour nous libérer. Et il y a de la loi pervertie, celle qui nous écrase, celle qui peut être cause de chute. Eh bien, ces lois-là, il faut les faire voler en éclats. Et là, il est question de la circoncision. On peut s'interroger aussi sur nos lois, sur nos rites, sur nos réflexions. Ne serait-ce que Dieu a dit que, alors il faut faire que. Est-ce vrai? Est-ce bien cela qui est dit au cœur des Écritures? Parce que le message, et d'ailleurs, il le résume encore plus que Jésus, Paul, dans l'Épître aux Galates. Il dit, il n'y a qu'une seule loi, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et vous l'avez entendu même là, le souci du petit est au cœur de la réflexion de Paul. Ainsi, il y a une loi quelquefois, quelque positive, restaurée, c'est-à-dire la loi que l'on lit à la lumière du message d'amour du Christ. La loi est positive si on reconnaît que l'amour de Dieu est premier, que la grâce de Dieu est première et que nous sommes pécheurs. Il y a tout cela Et évidemment qu'en ce jour de dimanche de la réformation, nous ne pouvons pas ne pas oublier cela. Il n'est pas question de gommer la loi et de dire « tout ça n'a aucune importance, seule la foi compte ». Bon, d'ailleurs, rien qu'en disant ça, vous faites de la foi une loi. Alors vraiment, on est encore à côté de la plaque. Vous voyez que c'est un peu complexe. Donc, Paul a une vraie réflexion sur notre identité de chrétien. Qu'est-ce qui fait que nous sommes chrétiens ? Eh bien, ce qui fait que nous sommes chrétiens, il le résume, lui, de manière très brève, et c'est un peu abrupt, mais je pense que vous le comprendrez. Il n'y a qu'une seule chose que nous prêchons, c'est le Christ crucifié et le Christ ressuscité. Oh, Paul ne parle jamais de la vie du Christ. Heureusement qu'on a les évangiles, quand même, ça adoucit un peu, puis on comprend plein de choses en lisant les évangiles. Mais après tout, Paul se dit qu'on peut les lire, les évangiles, ou tout du moins les bribes d'évangiles qui à cette époque-là, circulent. Lui, ce qui lui importe, c'est le Christ crucifié et le Christ ressuscité. C'est à travers la mort et la résurrection du Christ que l'amour de Dieu se manifeste. C'est à travers une personne, celle du Christ, que désormais nous sommes le peuple de Dieu. Et cette personne, eh bien, s'adresse à nous tous. Cette personne, c'est aussi une parole, cette parole d'amour. D'amour, cette parole essentielle. Alors, pour terminer, je voudrais revenir sur l'effacement, en réalité, de Paul et enfin de Pierre par rapport à Paul. C'est en quelque sorte un passage de témoin, un passage de témoin qui se fait au cœur des Écritures. C'est-à-dire que Pierre appartient à cette génération qui a connu Jésus, qui a été témoin de la vie, de l'enseignement de Jésus, et qui a transmis d'ailleurs, parce que c'est à travers eux que cela va se transmettre, que cela va pouvoir être mis par écrit ensuite dans les évangiles. Mais ces tout premiers témoins, petit à petit, vont disparaître. Alors que nous reste-t-il ? Les Écritures, mais aussi l'expérience. L'expérience formidable de Paul qui, lui, n'a pas été témoin, qui, lui, n'a jamais rencontré le Christ en personne. De manière vivante, il ne l'a pas touché, comme Thomas voudra le toucher. Non, mais il a fait cette expérience. Il a quand même rencontré le Christ vivant dans sa vie. Et il le dit bien, il a été appelé par le Christ. Il a été appelé et envoyé par le Christ. Il est esclave du Christ. C'est-à-dire que, finalement, on s'en fiche de savoir si on l'a rencontré en chair et en os. Ce qui est important, c'est ce que nous pouvons vivre dans cette rencontre individuelle, personnelle, avec le Christ. La rencontre avec le Christ, c'est toujours une expérience humaine et personnelle. Ça a été celle de Paul, ça a été celle de Pierre. Mais malheureusement, le Christ, aujourd'hui, sa présence est autre. Et d'ailleurs, dans les évangiles, particulièrement chez Jean, il va nous apprendre à être capables de le reconnaître dans cette présence absente ou cette absence de, et cette absence présente, dans ce sorte d'oxymore en fait, mais reconnaître qu'il est à l'œuvre dans nos vies, que sa parole d'amour eh bien, est quelque chose qui nous libère et que le message d'amour, que Dieu nous aime en premier, avant que nous soyons même capables d'aimer, eh bien, c'est cela et avant tout cela qui est essentiel. Alors Paul, eh bien, il est comme nous. Il n'a pas rencontré le Christ. Il a eu une expérience singulière sur le chemin de Damas. Mais chaque expérience est singulière. Peut-être que vous n'allez pas rencontrer le Christ de manière comme ça, comme une illumination, mais petit à petit, en fréquentant les églises, petit à petit, en fréquentant les Écritures, petit à petit, en vous mettant au service des autres, parce que c'est aussi à travers les autres qu'on rencontre le Christ, eh bien, ce passage de témoin se fait là, déjà, dans les Écritures. Oui, Christ est présent parmi nous, et bien que nous ne l'ayons pas rencontré de manière physique. C'est cela qui nous est dit à travers l'expérience de vie de Paul. L'effacement progressif de Pierre et la mise en place de Paul, c'est la mise en place eh bien, des générations successives. C'est la possibilité de la vie de l'Église après et encore après. Et c'est, je trouve, tout tout à fait exceptionnel que l'Écriture travaille en son sein même cette expérience personnelle à laquelle nous sommes appelés. Ainsi, je ne choisirai pas entre Pierre et Paul, parce que vous l'avez compris, à plusieurs reprises je l'ai dit, combien j'aimais Pierre et son humanité aussi, le fait qu'il ne comprenne jamais rien, qu'il soit toujours à contre-courant. Paul, il est un peu moins comme ça, en tout cas on a l'impression. Mais Paul fait autre chose, il se dit, il se raconte, il souffre et il se met en chemin, il nous met en chemin aussi. Et je pense que ce soit Pierre ou que ce soit Paul, il nous rappelle que nous sommes aimés de Dieu en premier. Mais il nous rappelle aussi que nous sommes, comme le dit Paul lorsqu'il commence ses épîtres, de manière différente d'une épître à l'autre, nous sommes tous appelés, nous sommes aussi tous serviteurs du Christ et serviteurs des autres, et nous sommes tous des témoins de l'amour de Dieu dans notre vie, des témoins appelés à partager, et nous sommes donc tous apôtres, c'est-à-dire envoyés, avec et par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen.